voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, parmi toutes les émissions que Canal Academy a réalisées sur Léopold Sédar Senghor, à l'occasion du centenaire de sa naissance, nous vous proposons dans cette lecture de revenir sur le contexte historique de la décolonisation du Sénégal. En 1895, le gouvernement général de l'Afrique occidentale française, l'AOF, est institué. Il regroupe les colonies africaines françaises allant de la Mauritanie au Dahomey, qui correspond à l'actuel Bénin, et s'étend sur plus de 4 millions de kilomètres carrés. Le gouvernement colonial installe la capitale à Dakar, qui devient en même temps la capitale de toute l'Afrique occidentale française, et la France favorise l'économie sénégalaise en développant la culture de l'arachide à des fins d'exportation. Après la Seconde Guerre mondiale, une assemblée territoriale est créée au Sénégal et Léopold Sédar Senghor devient l'un des députés au Parlement français et domine la vie politique locale de son pays. Le français est choisi comme langue officielle durant toute la colonisation française et en 1958, le Sénégal obtient le statut de république au sein de la communauté française. En 1959 et pendant un an seulement, la Fédération du Mali voit le jour. Elle regroupe le Sénégal et le Soudan français qui correspond à l'actuel Mali. Mais elle sera rapidement dissoute pour cause de querelles internes et le Sénégal obtient son indépendance le 18 juin 1960. Et c'est Léopold Sédar Senghor qui présidera cette nouvelle république. Le chancelier honoraire de l'Institut de France, Pierre Messmer, revient sur cette période de l'histoire dans un discours qu'il a prononcé le 26 juin 2006 à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'anniversaire du centenaire de la naissance de Léopold Sédar Senghor. Dans sa longue carrière politique, rappelons que Pierre Messmer est parti en Afrique française où il fut notamment commandant du cercle d'Attar en Mauritanie entre 1950 et 1952, gouverneur de la Mauritanie, puis de la Côte d'Ivoire. Directeur du cabinet de Gaston Defferre, il deviendra ministre de la France d'Outre-mer en 1956 et Pierre Messmer, toujours, devient haut-commissaire de la République au Cameroun de 1956 à 1958, puis en Afrique équatoriale française à Brazzaville et enfin haut-commissaire général de la République en Afrique occidentale française à Dakar. Son discours est relu en studio par notre comédien Fernand Guillot.
Que Léopold Sédar Senghor ait, dès 1945, pensé à l'indépendance, quoi de plus naturel de la part d'un des trois inventeurs du concept de négritude. Et cela dans un monde où le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un principe universellement accepté. Sa marche vers l'indépendance a été pacifique, mais difficile. Et les difficultés sont venues des Africains au moins autant que du colonisateur. Pour le comprendre, il faut remonter aux élections législatives du 2 janvier 1956, à la suite desquelles le gouvernement Edgar Faure sera remplacé le 26 janvier par le gouvernement Guy Mollet. Senghor avait été secrétaire d'État à la présidence du Conseil. Avant lui, sous la 4e République, un seul Africain, Lamine Gueye, lui aussi sénégalais, elle avait été pendant un mois dans le gouvernement Léon Blum du 18 décembre 1946 au 16 janvier 1947. Senghor s'était intéressé au projet de réforme des territoires d'outre-mer et il l'avait fait dans l'esprit du congrès tenu à Bobo-Dioulasso, en Haute-Volta, par les indépendants d'outre-mer en 1953. Il proposait notamment la création de conseils de gouvernement fédéraux à Dakar et Brazzaville. Les élections de janvier 1956 marquent une double défaite pour Senghor. En métropole, le MRP auquel les indépendants d'outre-mer sont apparentés passe dans l'opposition, et en AOF, les 7 députés RDA et les 2 socialistes sont plus nombreux que les 6 indépendants. Senghor sort du gouvernement, où entre son adversaire Oufouette Boigny en qualité de ministre délégué auprès du président du Conseil. En même temps, Gaston Defferre, nommé ministre de la France d'Outre-mer, décide de faire voter rapidement une loi cadre accordant l'autonomie interne au territoire d'outre-mer. Ce sera la loi du 23 juin 1956 qui ne plaît pas du tout à Léopold Senghor. Pour l'essentiel, la loi consiste à élargir les compétences des assemblées territoriales élues au suffrage universel et à créer dans chaque territoire un conseil du gouvernement dont le vice-président, qui deviendra en 1958 président, est élu par l'Assemblée qui peut le renverser. En revanche, rien n'est prévu pour les gouvernements généraux des deux fédérations AOF et AEF qui ne gardent que les services communs et un rôle de coordination. Dans le débat parlementaire, les critiques de Senghor portent principalement sur ce point. « Vous balkanisez l'Afrique, dit-il. Vous allez à l'encontre de son aspiration à l'unité. » Il s'abstiendra dans le vote, sous prétexte que ces réformes ne sont, je le cite, « que bonbons et sucettes ». Il exagère un peu. Son combat n'est pas terminé car la loi cadre sera suivie d'une vingtaine de décrets d'application. Les premiers datent du 3 décembre 1956, mais les derniers ne seront publiés que le 22 juillet 1957, plus d'un an après le vote de la loi. Senghor convoque à Dakar un congrès des indépendants d'outre-mer du 11 au 13 janvier 1957. Une convention africaine est fondée qui réclame aussitôt la création en Afrique française de deux fédérations qui constitueront deux États susceptibles d'être intégrés dans la République fédérale. Pourquoi Senghor tient-il tellement à la fédération ? Essentiellement pour une raison politique. La balkanisation fera éclater la grande et forte AOF en 8 petits États faibles aux frontières tracées par le colonisateur et contestables car tenant mal compte des solidarités ethniques. Mais aussi parce que la fédération profite beaucoup au Sénégal. Senghor ne le dit pas, mais Oufouette insiste sur ce point et il n'a pas tort. Dernier gouverneur général de l'AOF, j'ai été chargé en 1959 de la dévolution des biens de la fédération. Un rapport montre que les investissements immobiliers réalisés en AOF de 1930 à 1958 s'élèvent à 15 milliards de francs, dont 8 milliards ont été dépensés dans la seule ville de Dakar. Senghor continue à se battre et il a l'espoir de réussir, car 2 territoires seulement sur 8 sont irrévocablement hostiles à la fédération. La Côte d'Ivoire, lasse de servir de vache à lait, et la Mauritanie, où la majorité arabo-berbère blanche refuse d'entrer dans un État fédéral dominé par les Noirs. Oufouette n'arrive pas à convaincre son parti de le suivre. Au congrès de Bamako en 1957, 10 sections territoriales du RDA sont représentées par 254 délégués. Seul le Gabon de Léon Mba appuie Oufouette. Tous les autres sont fédéralistes, avec Sékou Touré qui est élu vice-président. En cette même année 1957, les syndicats africains se détachent des syndicats métropolitains et constituent lors de leur conférence intersyndicale du 13 janvier l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, dont le président est Abdoulaye Diallo, vice-président de la Fédération syndicale mondiale, entièrement et directement contrôlé par Moscou. Il réclame la fédération et l'indépendance immédiate. Sur le terrain, la politique fédéraliste de Senghor est donc soutenue par la majorité des dirigeants africains, politiques et syndicaux, qui espèrent entraîner derrière eux la masse rurale indifférente. Tout change avec le retour au pouvoir du général de Gaulle en mai 1958. Le projet de constitution tient compte de la volonté de Félix Oufouette, ministre d'État, mais il ne ferme pas la porte aux fédéralistes. L'article 76 prévoit que les territoires qui auront adopté la constitution devront, s'ils décident de changer de statut, choisir de devenir ou bien département d'outre-mer, ou bien État membre de la communauté, groupés ou non. Les regroupements sont donc possibles, mais seulement s'ils sont volontaires. La France ne les imposera pas. Senghor va se trouver dans une situation très inconfortable. Le parti du regroupement africain, PRA, qu'il préside, tient son congrès à Cotonou du 25 au 27 juillet 1958 et réclame l'indépendance immédiate, c'est-à-dire une réponse négative au référendum constitutionnel qui aura lieu le 28 septembre. Que dire aux Sénégalais qui semblent divisés ? Et il faut décider rapidement, puisque le général de Gaulle terminera sa tournée africaine à Dakar le 26 août, dans moins d'un mois. Il choisit une solution peu glorieuse, le silence et l'absence. Ce jour-là, il est à Vichy, en compagnie de Mamadou Dia, sous prétexte de cure thermale, tandis que de Gaulle s'adresse à la foule réunie en fin d'après-midi, place Protais, aujourd'hui place de l'Indépendance. Aux porteurs de pancartes groupés au fond de la place revendiquant « Indépendance immédiate »,« Nation fédérale africaine »,« Unité africaine », »,« Je veux », s'écrit-il d'une voix sonore diffusée par une sono bien réglée, dire ceci, « S'ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre ». Le lendemain, de Gaulle, plutôt pessimiste, quitte Dakar pour Alger, mais le ministre de la France d'Outre-mer, Bernard Cornu-Gentil, reste encore 2 jours. Il a été gouverneur général de l'AOF quelques années plus tôt et connaît bien le Sénégal. Il pense comme moi que les Sénégalais approuveront la Constitution, malgré les oppositions et le silence de Senghor. Lamine Gueye et ses amis socialistes y sont favorables. Et les chefs religieux très influents n'aiment pas les porteurs de pancartes. Le ministre invite Seydou Nouroutal, Ibrahima Niass, grand marabout de Kaolack, Falidou Mbaké, calife général et chef indiscuté des Mourides, Ahmed Tidiane-Si, chef des Tidjanes. En accord avec eux, il rend public leur décision favorable, qui devient ainsi irrévocable. Pour les remercier, il leur fait quelques promesses qu'il me reviendra de tenir. Quand Senghor rentre à Dakar quelques jours plus tard, il lui est facile de prendre ouvertement parti en faveur de la ratification du projet de constitution qui sera voté par une très large majorité de Sénégalais. En application d'une ordonnance du 7 octobre 1958, les territoires ayant approuvé la constitution, c'est-à-dire tous les territoires français d'Afrique, à la seule exception de la Guinée devenue indépendante par son vote négatif, doivent choisir dans un délai de 4 mois leur futur statut. En AOF et en AEF, tous choisissent le statut d'État membre de la communauté. En application de l'article 76 de la Constitution, Senghor et Modibo Keïta décident d'unir le Sénégal et le Soudan français dans une fédération qui prend le nom de Mali. Dans la forme que lui avait accordée la Constitution de 1958, la communauté ne vivra pas longtemps. Le 11 septembre 1959, Madagascar et le Mali réclament l'indépendance dont la Guinée de Sékou Touré les fait rêver. Ils renouvellent leur demande lors de la 6e réunion du Conseil exécutif de la communauté à Saint-Louis le 12 décembre. De Gaulle y était prêt et les prend au mot. À Dakar, le 13 décembre, devant l'Assemblée fédérale du Mali, réunie sous la présidence de Senghor dans ce qui avait été la salle du Grand Conseil de l'AOF, il annonce sans regret « Le Mali, et avec lui les États qui le composent, vont accéder, avec l'appui, l'accord et l'aide de la France, à la souveraineté internationale. » Dans 3 semaines commencera 1960, l'année des indépendances. Le Mali n'y survivra pas longtemps. Il éclatera moins d'un an après sa formation. Peut-être Senghor et ses amis comprirent-ils enfin que les grandes fédérations d'AOF et d'AEF, création de la France, ne pouvaient pas survivre à la souveraineté française, à son administration et son armée. Les échecs ont souvent des conséquences désastreuses. Tel n'a pas été le cas pour Léopold Sédar Senghor. Son utopie d'une fédération africaine d'États centrifuges mortes et enterrées, il s'est consacré au Sénégal, dont il a été le premier président, et un grand président. Sa volonté intacte d'unir des hommes s'est appliquée à un terrain plus vaste que l'Afrique. Il proposera et fera accepter la belle idée d'organiser la francophonie. Le rêve est devenu réalité.
Vous venez d'entendre la relecture du discours de Pierre Messmer par notre comédien Fernand Guillot, une communication prononcée devant les députés de l'Assemblée nationale le 26 juin 2006, à l'occasion du centenaire de la naissance de Léopold Sédar Senghor. Retrouvez la version écrite de la communication de Pierre Messmer sur le site de notre radio. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.